Et maintenant, retrouvons la chronique de Ronny Akrich sur Radio Futée.
À nos chers auditeurs de Radio Futée, Shalom, Ronny Akrich depuis Hebron. Nombre de discussions, de divergences et même de disputations au Parlement israélien nous rappellent ô combien sommes-nous en recherche perpétuelle de cette fraternité, de cette nationalité et surtout de ce devenir pour Israël. Actuellement, bien sûr, nous devons faire face à une situation politique qui est toujours aussi confuse et délicate en Israël. Près de 66 ans après la création de l'État hébreu, nous sommes en droit de nous interroger quelle est la réelle signification de ce présent si difficile et surtout que nous réserve l'avenir dans cette région. Pour mieux comprendre, si vous le voulez bien, la situation d'aujourd'hui, nous devons toujours avoir à l'esprit que le retour et la résurrection d'un peuple sur sa terre ne se fait certainement pas d'un seul coup de baguette magique. Après tout, 2000 ans de torpeur nationale ne peuvent s'effacer d'un seul trait. Dans son ouvrage du Kuzari, Rabbi Yehuda Lévi relate la réplique du sage juif expliquant à son objecteur, le roi des Khazars, la valeur profonde et intrinsèque de la terre d'Israël pour le peuple d'Israël, ainsi que sa sainteté et sa vitalité. Le roi lui répond alors, s'il en est ainsi, vous et votre peuple n'êtes qu'un corps sans tête. Et le sage d'acquiescer, certes, nous le sommes, mais nous sommes également un corps sans corps. Car en exil, nous ne fûmes rien d'autre que des ossements desséchés, comme le dit le prophète Ézéchiel dans sa célèbre vision, j'allais dans la vallée et elle était pleine d'ossements. Pour ceux que cela intéresse, c'est au chapitre 37 du livre de Ézéchiel. Selon l'estimation de nos sages, cette vision définit exactement l'état du peuple juif en diaspora. Bien que les juifs continuent de vivre dans plusieurs contrées étrangères, la vie même de la nation s'est arrêtée pendant des milliers d'années. Pourtant, si nous nous référons à cette extraordinaire prophétie de Yéhezkel, l'Éternel a également confié à son prophète un message d'espoir. Ses ossements desséchés ressusciteront. Eh bien voilà, la nation d'Israël possède cette extraordinaire particularité d'être donc capable de renaître de ses cendres et de sortir revivifié de 2000 ans d'exil, ce que j'appelle l'identité de l'être hébreu. À ce titre, l'histoire de notre peuple va à l'encontre de celle de toutes les grandes civilisations, comme celle de Rome, d'Athènes, j'en passe, et bien d'autres. Après avoir connu des périodes de grandeur et d'apogée, suivies d'une étape de décadence, eh bien, vous le savez, ces civilisations ont basculé dans les oubliettes de l'histoire du monde, pour totalement disparaître, et à tout jamais, en tant que peuple de la surface de la terre. Or, la nation d'Israël est quant à elle éternelle, ainsi que le déclame, et que je vous le rappelle bien souvent, le propos de Shmuel, Netzar Israël, le Ishaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Tout en ayant parfois l'apparence d'une nation morte, cet étonnant groupe humain que nous représentons est irrémédiablement appelé à ressusciter. Nous en sommes les témoins. À l'origine de notre nation, Dieu promet à Abraham, premier des patriarches hébreux, une nombreuse descendance. Pourtant, il est âgé de 99 ans et Sarah de 90 ans. Ils n'ont toujours d'ailleurs pas conçu l'enfant attendu. C'est lorsque tout semble perdu que le miracle se produit enfin. Car, malgré son âge avancé, Sarah conçoit et enfante, ainsi que nous l'avons lu ces dernières semaines. Il en est de même, d'ailleurs, pour cette épreuve de ce que j'appelle la ligature d'Itsrak Akeda, ordonnée par l'Éternel. Il s'agit pourtant de ce même Itsrak qui doit donner naissance à la nation divine, à la nation d'Israël. Et c'est à l'instant ultime, alors que le bras d'Abraham est déjà levé pour frapper, que l'Éternel arrête le cours de cet impossible sacrifice et permet ainsi à la nation juive de naître et surtout de renaître. Aujourd'hui, nous sommes à la fois la plus jeune et la plus vieille nation de la terre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si notre cher et regretté Théodore Herzl décida d'intituler l'un de ses plus célèbres essais sionistes « Altne Land », ce qui se traduit comme « la terre ancienne nouvelle ». Les initiés savent qu'il s'était en fait inspiré du nom de la grande synagogue de sa ville de Vienne, qui portait un nom semblable, Altne Schule. Or, Altne se rapproche du terme hébreu altnaï, sous condition. Je vous laisse réfléchir à cela. D'après le traité talmudique de Megillah, toutes les synagogues de la diaspora ont été construites à condition qu'un jour elles soient déplacées et réimplantées en terre d'Israël. Si les synagogues sont ainsi placées sous condition, c'est bel et bien le signe que l'exil l'est également. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours considérer que la création de notre nation, de notre nouvel État, est d'essence divine. La sortie d'Égypte d'il y a 3500 ans est le résultat le plus marquant d'une intervention divine dans l'histoire de l'humanité. Un peuple conçu de cette manière ne peut donc s'anéantir. Son retrait de l'histoire en tant que peuple, ainsi que son absence sur la scène des nations pendant 2000 ans, n'était certes que provisoire. Aujourd'hui, de retour sur sa terre ancestrale, le peuple hébreu ressuscite et, comme vous le savez, est à la une des médias dans le monde entier. Rashi définit très précisément la nature de cette résurrection de la nation d'Israël. Dans son commentaire, pour ceux que ça intéresse, je rappelle toujours des quelques références, page 93b de la Gemara de Sanhedrin, ce qu'on en appelle Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Dans ses adjonctions à son commentaire sur le Sifra des Tzniouta, dans le Zohar, le Gaon de Vilna nous explique que l'exil est un tombeau dans lequel le peuple juif se trouve en état de décomposition, d'abord physique, en raison des méfaits commis par les nations. Nul besoin de rappeler, bien sûr, l'Inquisition et la Shoah qui causèrent, en effet, la mort de millions de nos frères et sœurs. Mais cette décomposition se situe également à un niveau moral, spirituel, en raison du désastre de l'assimilation qui, selon ce que nous savons, bien sûr, surtout de ces 50 dernières années, provoque la disparition de nombreux, sans citer de chiffres bien entendu, nombreux juifs à chaque décennie. Ainsi, en France, alors que les mariages mixtes aux États-Unis de la même manière sont exponentiels, il n'est certainement pas exagéré de comparer l'exil à une tombe matérielle et spirituelle pour notre peuple. Certes, il s'agit sans doute d'une tombe relativement dorée et confortable, bien que tout reste relatif de nos jours, mais la diaspora n'en demeure pas moins un caveau de perdition et d'extinction. Face à la gravité de ces phénomènes dont nous sommes les témoins, l'Éternel nous a gratifié donc d'un don inestimable. Il y a 66 ans, il a enclenché le processus de résurrection de son peuple. Il a décidé que l'obscurité enveloppant la terre d'Israël depuis le départ de ses enfants devait se dissiper pour faire place à une éblouissante lumière éclairant à nouveau les collines et les ruelles de Jérusalem, de la Judée et de toute la terre d'Israël. Et peu à peu, bien nous le voyons au quotidien, des quatre coins du monde, le peuple a répondu à cet appel divin. Il s'est mis en marche vers la terre de ses ancêtres afin de commencer à la reconstruire avec le succès que l'on sait. Pourtant, il n'est jamais facile, et nous le savons bien entendu, de mettre fin à 2000 ans de léthargie, et il n'est surtout jamais aisé de s'extraire même du plus luxueux des tombeaux. Ce radical changement de situation s'accompagne souvent de crises, de tensions et de difficultés de tout ordre. La joie d'assister au rassemblement des exilés est mêlée à la douleur causée par le refus sanguinaire de nos ennemis qui préfèrent nous voir demeurer dans nos cercueils millénaires. Ainsi, l'enthousiasme éprouvé à reconstruire ce pays, à le faire refleurir, s'assombrit de la difficulté à préserver, d'une part, l'intégralité de notre terre, promise à notre peuple depuis près de deux millénaires, mais aussi de devoir se consacrer et souffrir des divergences à tous les niveaux de cette reconstruction sociale, économique, politique, spirituelle, etc., etc. Face à la menace permanente venant de l'extérieur que nos ennemis font toujours peser sur nous. 70 ans après Auschwitz, pendant que l'écrivain Elie Wiesel nous répète sans cesse que les forces d'Auschwitz ne sont pas mortes, nous éprouvons une certaine fierté de savoir que nous possédons une armée puissante capable de nous défendre. L'un de nos sages, Rabbi Chiya, a parfaitement décrit ce vécu dans le Talmud de Jérusalem et compare la délivrance du peuple d'Israël à l'aurore. D'abord, tout est obscur, peu à peu de faibles lueurs caressent l'horizon, et après s'être fait tant attendre, une lumière éblouissante s'étend enfin sur le monde. Lorsque les difficultés surgissent, n'oublions jamais que la délivrance est un long processus lors duquel la lumière et l'obscurité s'affrontent tour à tour. L'un des deux semble l'emporter sur la seconde, et il nous tarde, bien sûr, de voir poindre l'aurore. Mais l'important reste que nous devons savoir appréhender le processus dans son ensemble. Nous n'aurons ainsi plus le moindre doute sur le fait que depuis les origines du sionisme moderne, voici plus d'un siècle, nous vivons l'heure incontournable de notre résurrection nationale envers et contre tous les aléas de l'histoire vécue. Cette histoire se poursuit sans relâche et sera en son temps couronnée par l'avènement des temps messianiques. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom ou Mevorach et à la semaine prochaine depuis Hebron, si Dieu veut.
C'était la chronique de Roni Akrish sur Radio Futé.